Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
Il faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amené au cœur de la guerre des cartels dans l'État de Guerrero au Mexique, qui nous a amené voir des anciens de la DEA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. Je vous conseille de ne pas le manquer.
Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ qui est disponible en exclusivité sur Club Illico dès aujourd'hui.
Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un podcast où il y avait une mise en garde que c'est du contenu pour adultes.
Voici ta chance.
Alors, voici ma chance de le faire. Alors, attention, dans ce podcast-là, c'est d'abord du contenu qui s'adresse à des adultes, là où en fait des gens qui ont plus de 18 ans et qui ont une tête sur les épaules. C'est hyper touché ce qu'on fait, parce que là, on va donner la parole à des gens qui passent leur temps à défier et à désobéir aux lois. C'est pas parce qu'on veut en faire des modèles.
On fait pas ça pour les élever, on fait ça pour comprendre puis pour faire la lumière sur une zone d'ombre.
La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
Alors, nouvelle saisie de drogue.
80 000 doses d'héroïne.
Cette présence accrue de fentanyl.
Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés à Montréal.
Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor.
Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos PQ. C'est là qu'on va les découvrir.
Bienvenue à Narcos PQ, une série pour mieux comprendre l'ampleur du narcotrafic au Québec.
Au Québec, on a vraiment parmi les plus importants narcotrafiquants en Amérique. Il y en a certains même qui sont parmi les plus importants au monde, qui ont plus de contacts un peu partout sur la planète. J'en connais même qui ont traité directement avec El Chapo, hein? El Chapo Guzman, le baron de la drogue mexicain qui est maintenant en prison aux États-Unis pour le restant de ses jours. On entend souvent parler de saisie, right? Des centaines de kilos, des tonnes même. Qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, souvent, c'est que les narcos font venir la drogue au Québec, mais par le Mexique, par tonne. Ils vont la redistribuer ici dans leur réseau à eux. Il y a des petits producteurs, il y a des gros bonnets qui font du trafic international. Tout ça étant, là, ce qui est cool, c'est que on va en rencontrer parmi ces gens-là dans Narcos PQ, mais on va savoir un peu comment ils vivent, qui ont quand même passé toute leur vie ou presque sous le radar. Et là, ils acceptent un peu de faire quelques petits pas vers la lumière avec nous. On va commencer l'épisode d'aujourd'hui en parlant des drogues de synthèse, parce que c'est ce qui est tendance.
C'est assez à la mode, puis c'est populaire parce que ben c'est pas cher, c'est facile à produire et à transporter.
Exact.
Pour vous donner quelques chiffres sur la production de ce genre de drogue au Québec, parce que oui, on en importe, mais on a aussi une industrie locale florissante. J'ai devant moi un rapport de la Sûreté du Québec qui date de 2016. Fait qu'à l'époque, les autorités estimaient qu'il y avait au Québec entre 25 et 150 laboratoires actifs produisant des drogues de synthèse. 25 à 150, c'est un grand écart qui nous montre à quel point c'est underground et difficile à détecter pour les autorités.
Ben oui.
Fait que selon leurs calculs, la capacité de production de ces laboratoires pouvait aller jusqu'à 29 400 kg de drogues de synthèse par année, ce qui est énorme. Et si on considère que la tendance est à la hausse, bien, je vous laisse faire le calcul.
On dit que c'est 10 000 fois plus puissant que la morphine.
L'un des plus importants laboratoires d'encapsulage de drogues de synthèse à jamais avoir été démantelé dans l'histoire du Québec.
Bien, on devrait aussi faire une parenthèse pour expliquer c'est quoi des drogues de synthèse. Essentiellement, c'est n'importe quelle drogue qui est créée en laboratoire, qui est chimique.
C'est ça, qui est chimiquement fabriqué, qui est fabriqué à partir de composantes qu'on mixe ensemble, extrêmement dangereuses pour la plupart. Puis si c'est mal dosé, ben tu meurs.
Fait que les drogues de synthèse qui sont populaires au Québec, on parle de speed, de MDMA, d'ecstasy, de GHB, qui est la drogue du viol. Les gens consomment aussi du crystal meth, une variété de pilules. Il y a des opioïdes synthétiques, il y a du cannabis synthétique. Bref, ça prend une variété de formes.
Donc, pour les plus ignorants comme moi en matière de drogue synthétique, ça pousse pas dans un arbre, puis ça pousse pas à terre.
Bien dit.
Parfait, merci. Okay. Ouais, te rappelles-tu donc de la saisie de drogue à Chertsey, dans Lanaudière?
Cette nouvelle de dernière heure, les policiers de la Sûreté du Québec mènent une opération majeure dans Lanaudière, Félix. De fait, ils démantèlent un des plus importants laboratoires de drogue de synthèse du Québec.
Écoute, il y a un police à un moment donné qui m'appelle, qui dit « Félix, tiens-toi à Chertsey. Dans l'après-midi, tu sais, il va se passer quelque chose. »
Puis t'es allé.
Là, je suis allé sur le chemin du...
Loup-garou!
Merci. Sur le chemin du loup-garou à Chertsey. Puis, il y a une vieille shed dans le fond du chemin du loup-garou. Puis tu vois, à un moment donné, les policiers arrivent là, ils sont masqués, ils ont l'habit d'un genre de scaphandre de protection. Pouf! Ils tombent sur quoi? Un lab qui peut produire 600 000 comprimés de mètre par semaine, méthamphétamine.
Wow!
Ils arrivent là-bas, ils saisissent 1,7 million de comprimés sur place. Puis, tu sais, on avait calculé qu'ils pouvaient sortir, si le lab roulait, disons, plusieurs semaines par année, là, des 20, 30, 40 millions de comprimés par année. Ça n'a juste pas de sens. Puis c'était des gars qui étaient liés à Wells Angels en plus.
C'est des millions de dollars.
Ouais. Bien, ça nous amène à notre histoire d'aujourd'hui, dans le fond, notre narcose d'aujourd'hui. Comment on l'appelle, d'ailleurs?
Ben, je l'ai appelé Justin. C'est pas un vrai nom, évidemment, mais c'est...
Tu m'étonnes. Bien sûr, il faut protéger son identité, ce gars-là, right?
Ben oui, parce qu'il veut pas vraiment s'exposer. D'ailleurs, il est pas lié à l'histoire qu'on vient de vous raconter, mm-hmm. Mais lui a quand même un récit assez remarquable.
D'abord, comment t'entres en contact avec lui? Puis pourquoi il accepte de travailler? Moi, ça me fascine, c'est tout ce qui vient avant, là. C'est pourquoi il va accepter? C'est-tu un gars que tu connaissais avant d'avoir rencontré pour une histoire? C'est un
non.
gars que...
Non.
C'est pas genre un ami d'enfance, là,
non.
qui...
Non, zéro.
Qui,
c'est quelqu'un
que ça arrive, ça.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, ça arrive.
On en a sûrement dans nos réseaux.
Ouais, ouais.
Mais non,
bon, okay.
C'est quelqu'un que j'ai rencontré pour un reportage qui n'avait rien à faire avec la drogue. Et puis, c'est ça.
C'est un vrai, là.
C'est un vrai. C'est un gros bonnet. De fil en aiguille, on s'est mis à parler de son autre vie.
T'as fait quoi?
De la drogue de synthèse. Une drogue de synthèse que j'entrerai pas dans les détails. Je veux pas trop fournir d'informations parce que lui, il veut vraiment pas être retrouvé.
OK.
Quand quelqu'un a une histoire comme ça, de lui dire « OK, mais je veux l'enregistrer », ça, c'est difficile de convaincre quelqu'un de se confier avec un micro. Mais là, on s'est rencontrés dans un restaurant de brunch en banlieue. J'ai apporté mon micro, il l'a caché comme sous la table et voilà. Alors, c'était une entrevue un peu difficile, il était nerveux.
Testing, 1, 2, 3, OK, tiens-le comme là.
Fait que le début, c'était deux pintes de bière.
J'en prends un autre, s'il vous plaît. Pas déjà.
C'est malheureusement tout ce que vous allez entendre du vrai Justin. Afin de le protéger, c'est quelqu'un d'autre qui va lire une reproduction intégrale de ses réponses. Fait que ma première question, bien évidemment, c'était comment et pourquoi il s'était lancé dans ce métier.
Ça a commencé jeune, très jeune même, 14-15 ans. Déjà, j'aimais beaucoup l'argent. Donc, j'ai commencé tranquillement là-dedans. Puis aussi, ben, avec les études, parce que je voulais faire des études, c'était plus facile pour moi. Ça me donnait plus de temps pour étudier. C'est ce que je me disais. Donc, ce que j'ai fait, au fond, a toujours été pour avoir plus de temps. J'aimais m'amuser. Puis quand tu commences dans ce milieu-là, ben t'as plus de temps libre, puis t'as plus d'argent pour en profiter. Donc ça a été comme ça un peu que ça a commencé. On commence par vendre un peu de potes dans le parc, puis là, ben, à grossir, puis grossir. Puis après ça, ben, c'est exponentiel. À l'époque, tout ce qui était genre marijuana, avec le prix, puis le dollar américain qui était tombé... Il était presque à égalité que le dollar canadien. Je me suis dirigé vers la production d'autres choses. Je suis allé pour le coup de circuit. De fil en aiguille, avec des personnes, ben, on m'a mis en contact sais, puis là, j'ai réussi à m'incruster. Parce que c'est pas facile, hein. C'est tellement de techniques différentes, souvent. Le monde dit, pourquoi tu fais pas faire ça par quelqu'un d'autre? Faut que tu le fasses toi-même, en fait. Ça peut pas être un imbécile, là. Il y a des calculs, de la chimie, c'est des procédés qu'il faut que tu fasses, des degrés à mesurer. Il y a plein de variables, hein. Il faut que tout ça soit respecté pour avoir un bon produit, finalement. Il faut construire quelque chose. Tu décides pas du jour au lendemain, moi, je fais de l'argent en claquant des doigts. Hein. Faut que tu construises avec un réseau de contacts, des liens de confiance. Jamais un jour, si tu m'avais dit, quand j'étais jeune, que c'est ce que je deviendrais, jamais j'aurais cru à ça.
Commencer le quotidien d'un producteur de drogue, je sais que c'est sûrement fascinant.
C'est super fascinant, mais c'est d'abord et avant tout une double vie parce que tout ce qui est super intéressant, lui, il peut pas vraiment en parler, il peut pas mettre ça sur LinkedIn.
Ben c'est sûr que au bout de la ligne, ça te prend toujours des façades. Pour être hors de tout doute, faut avoir une entreprise légitime. Ben ça prend un emploi. Mais j'avais pas le temps de travailler. Pour m'amuser, des fois, j'allais faire des tours. Mais sinon, j'étais pas souvent là. Je gérais à distance. Je payais quelqu'un qui s'en occupait. Tu sais, c'est un mode de vie, hein. Si tu fais ça 20 ans, 25 ans, c'est une carrière en soi, selon moi. J'avais plusieurs employés. Ça prend des grosses équipes. Tu peux pas mener ça à terme seul. Puis on parle de pas mal d'argent. J'ai fait des centaines de milliers de dollars par mois. Sauf que tu travailles pas tous les mois. Tu prends 6 mois, tu vas te promener. Tu peux pas en faire trop non plus. Hein. Faut laisser retomber la poussière.
Dans l'extrait qu'on vient de jouer, il dit, tu peux pas en faire trop. Il dit, tu peux pas trop faire de
drogue.
De drogue.
Lui, il en consomme pas, mais tu peux pas trop travailler là-dedans parce que, imagine-toi donc, que fabriquer des drogues de synthèse, ça a un effet physique assez intense, même si tu n'y touches pas.
Ça veut dire que juste à. Exemple, on prend
par
l'exemple.
Osmose.
Ah oui, hein?
Ouais.
Puis au niveau physique, c'est dur de travailler dans des conditions comme ça, à être exposé aux produits chimiques et aux produits finis aussi. Ben, tu dors pas bien. Puis du monde qui ont déjà des problèmes psychologiques, ça les accentue, tu sais. Quand tu paranoïes, là, tu peux tomber en psychose avec ça. Tu dors pas pendant 4 jours parce que tu travailles là-bas, juste par le contact, juste à en respirer. Ça rentre dans les pores de la peau, tu respires les produits. Après 5-6 jours, tu peux embrasser une fille, puis elle te dit que tu goûtes le produit chimique. En fait, ça rentre dans tes bronches. Donc, c'est super dur d'être exposé à ça au quotidien, tout le temps. C'est pour ça qu'il faut prendre des breaks.
Puis il y a des défis aussi. Il m'expliquait, il y a plein d'enjeux auxquels je n'avais jamais pensé, comme, par exemple, la gestion des déchets.
C'est très, très, très nocif. Donc, ces choses-là, comme par exemple 3 ou 4 000 litres, si tu déverses ça dans des terrains vagues, ça contamine la nappe phréatique. C'est vraiment mortel. Donc, il y a 2 ou 3 manières de t'en débarrasser. Tu peux enfouir toi-même les produits ou il y a des compagnies, des sites qui prennent ce genre de déchets-là sans poser de questions, mais à gros prix. C'est sûr que quand tu donnes de l'extra, la personne comprend un peu ce que ça peut être, mais pose pas trop de questions. Les déchets, c'est des déchets. Puis aussi, il y a beaucoup d'autres aspects dont il faut s'occuper, comme des acheteurs de produits ou le transport des produits. Tu sais, que tu vas chercher à Calgary, par exemple, ben ça prend quelqu'un qui va te le chercher. Donc, il faut faire des compagnies pour être légitime, acheter des containers, des locations de camions, des choses en grosse quantité. Tu loues pas des minivans, là. Ça prend des grosses vannes. C'est gros, mais malgré tout, ce qui est merveilleux, c'est que tu peux prendre tout ça puis le déménager. Tu peux prendre un cube, puis le lendemain, il reste plus rien dans la place. Par contre, au niveau du voisinage, c'est tout le temps à refaire. Tu sais, il y a les vapeurs, il y a de la senteur. Donc, c'est mieux dans des quartiers industriels ou des endroits en réclusion, genre loin en campagne. Mais dans un quartier industriel, tu peux avoir une couverture de compagnies chimiques en façade, puis derrière, ben, il se passe autre chose. Si ça sent fort puis qu'il y a une cheminée, ben, ça passe. Le monde pense que c'est facile, mais c'est pas facile. C'est des idées préconçues que c'est facile. Il y a beaucoup de cassage de tête, il y a des risques. Faut construire quelque chose.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
En tout cas, écoutez ce témoignage-là, ça me semble extrêmement compliqué. C'est incroyable c'est le incroyable. Trouble que tu te donnes. Bien, c'est sûr que tu ne veux pas aller en prison, mais il y a le trouble que tu te donnes pour ne pas être détecté, mais le procédé lui-même pour créer la drogue de synthèse, dans ce cas-ci, est compliqué.
C'est compliqué, mais c'est tellement payant.
C'est sûr que la vie est belle. Ça a ses avantages et ses inconvénients, comme dans n'importe quoi. Oui, c'est une vie avec de l'argent, des voyages partout dans le monde, des biens de luxe, des belles femmes, des grands restaurants. Mais d'un autre côté, il y a toujours un stress qui te pèse ses épaules parce que tu sais qu'un jour, ça va tomber. On se pense toujours plus fin qu'un autre. Hein. On essaie de pas faire d'erreurs, mais souvent, c'est pas de ta faute à toi, c'est la faute des autres. Il y en a d'autres qui font des erreurs. Tu sais qu'un jour ou l'autre, il va avoir une fin à tout ça, puis que tu vas payer le bill.
Donc lui, je comprends que d'abord, il s'est fait prendre.
Il s'est fait prendre, ouais.
Est-ce que je comprends qu'il s'est fait prendre parce qu'il y a quelqu'un autour de lui qui n'a pas été aussi prudent que lui pouvait l'être? Ou?
C'est ce qu'il dit.
Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est parce que, tu sais, tu fais 100 000, 200, 300, 400 000 par mois, je sais pas. Là. En tout cas, dans son cas, il a l'air à faire beaucoup de cash. Mais là, tu fais de la prison, tu sors de prison.
Puis tu perds tout.
Tu as une probation.
Ouais.
Tu perds tout, entre guillemets, parce que souvent, les plus intelligents, ils en ont caché. Et c'est quoi la prochaine étape, là? Tu redeviens un citoyen ordinaire et puis un civil, un retour à la vie civile, puis quoi, tu t'ouvres un restaurant de fèves au lard, ça marche pas?
Tu sais, c'est ça le défi. Faut qu'il se réinvente, faut qu'il essaie de se faire une vie honnête ou c'est sûr qu'il peut retourner à la criminalité, mais en tout cas, lui m'explique que en prison, il y a eu une espèce de prise de conscience. Parce que là, il a vu les gens qui avait consommé la substance que lui avait fabriquée. Puis ça, ça n'a pas été facile.
Moi, je consomme pas. Mes amis consomment pas. Je connais pas bien de monde qui consomme. J'étais pas au niveau de la rue, donc en lien direct avec le consommateur. Donc, c'est officiel que quand j'ai vu des gens à qui il manquait des dents, faire des crises de panique parce qu'ils sont en manque de drogue, vomir, pas dormir pendant des jours, c'est sûr que ça m'a frappé, puis peut-être une conscience sociale. Tu sais, je suis dans un barbecue puis je vois les enfants de mes amis. Là, je me dis que si un jour ces gens-là deviennent toxicomanes, ben c'est peut-être moi indirectement là, qui va avoir un rapport là-dedans, va contribuer à ça. Et ça, ben ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai vu combien de parents à travers une vitre, des femmes, des enfants pleurer à regarder le père qui était là, qui a volé une sacoche ou un dépanneur, qui a traumatisé du monde pour se procurer la drogue que moi je faisais, peut-être. Ça m'a touché. Tu sais, j'avais un doute là que ça peut rendre malade, mais je te dirais que les gens qui consomment ce type de produit-là récréativement, donc une fois de temps en temps, dans un rave ou un party, c'est pas si mal. Par contre, où ça va pas bien, c'est quand les gens en prennent en grande quantité puis quotidiennement, deviennent toxicomanes. Fait que ça m'a fait un choc. Parce que moi, j'aide le monde dans la vie. Je les détruis pas. Mais là, je me suis rendu compte que je les ai détruits. Donc ma conscience a été affectée. Par contre, c'est tout le temps la question de l'argent qui revient. Le monde ne font pas ça par malin plaisir à détruire les autres. Ils font ça pour faire de l'argent.
Fait que là, tu sais, lui, il raconte que il a jamais fait ça pour faire mal aux gens, pour détruire le monde. C'était vraiment juste pour faire de l'argent. Mais tu sais, faut que tu te rendes compte à un moment donné que t'es en train de détruire des vies en quelque part. Là.
Ben, Monsieur Schiff, ici, va te dire quelque chose.
Monsieur Schiff.
2800 décès en 2016 liés aux drogues de synthèse. 2017, on a juste des données préliminaires. On pense que ça va être vraisemblablement plus que 4000 au Canada.
Wow.
Alors ça, c'est les chiffres. Moi, cet extrait-là, il me fait, je te dis, là, il me fait flipper parce que ça vient rejoindre moi, tout ce que j'entends quand je rencontre des trafiquants. Eux autres, ils ont un système de valeurs à eux autres. Tu sais, il dit, ben, tu sais, je me suis rendu compte des dommages que ça faisait, mais tu sais, en même temps, il axe beaucoup sur le fait que c'est pas bon la drogue quand t'en consommes trop.
La modération.
Mais je veux dire, tu sais, tu vends des drogues de synthèse, puis ce qu'ils vendent, c'est fort, puis ça crée une accoutumance comme ça. C'est quoi que tu comprends pas, là? Tu sais, exemple, là, mettons du crystal meth. Tu vends ça à quelqu'un, pis tu dis, hey, ce serait bon que t'en fasses pas beaucoup. Ça, c'est ta conscience sociale. C'est la drogue qui accroche le plus instantanément de consommateurs presque dans le monde, seule l'héroïne. Ça me fait halluciner de les entendre répondre comme ça à ces questions-là. Puis je comprends, par exemple. Mais en même temps, je trouve que là, ça nous prouve qu'eux autres, ils vivent dans un système, ils vivent dans une logique qui est à part de la nôtre. Ils ont un système de valeurs parallèles.
Mais c'est l'appât du gain par-dessus tout, là.
Ouais, mais c'est ça. Sauf que l'appât du gain par-dessus tout, moi aussi, j'aime ça, l'argent, là, tu sais. Mais je veux même pas faire de mal à une mouche. Puis si on me proposait beaucoup d'argent pour faire du mal à une mouche, j'y réfléchirais. Fait que t'imagines, pour vendre la drogue de synthèse, tu sais, ça serait non. En même temps, c'est ça, l'argent vient amener chez eux cette espèce de diminution là, du fardeau qui leur incombe dans la production de drogue au Québec. Tu trouves pas?
Ben moi, je lui ai demandé ce qu'il allait faire maintenant, mais je lui ai aussi demandé, tu sais, il était un homme d'affaires à succès, là, il avait accompli des choses vraiment incroyables, mais dans une industrie qui est underground. Alors, il sera jamais valorisé ou reconnu par le public. Au contraire, il est plutôt démonisé. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant avec ta vie si t'as pas accès à cet argent-là puis t'as jamais eu de reconnaissance?
Ben, si t'as pas accès à cet argent-là puis t'as pas eu de reconnaissance, ben, t'es capable de te monter une business de drogue énorme comme ça. T'es-tu capable de te monter une business légale?
De faire voler.
De faire voler.
Un empire.
De bide. Donc, c'est ça, les prochaines étapes pour lui, tu sais, il sera jamais vraiment, il n'y a jamais personne qui va lui donner un doctorat honoris causa à l'Université Laval sa business. Alors, la prochaine étape pour lui, c'est quoi?
Mais tiens, je vais te laisser entendre ce qu'il m'a dit.
Tu sais, j'ai jamais fait ça pour la reconnaissance. Contrairement à d'autres, je suis pas valorisé par le crime. Moi, je faisais ça pour une chose, des raisons monétaires. C'était l'appât du gain. Moi, mon but, c'était de devenir millionnaire. Chose que je suis devenu. Après ça, j'ai perdu une coupe de plumes quand je me suis fait arrêter. Mais bon, la vie continue. Les gens peuvent penser facilement que le monde dans ces industries-là, c'est du mauvais monde. Mais souvent, c'est du monde avec des bonnes valeurs, des familles, des enfants. Souvent, avec des consciences sociales, t'sais. Mais l'argent passe par-dessus. Le monde, c'est pas ça, puis ils vont identifier les criminels comme étant des gens sans scrupules, mais il y a beaucoup de monde avec des cœurs. Si tu me demandes ce que je veux faire maintenant, j'improvise. C'est sûr qu'il y a des jours qui sont pas faciles. Avec une vie honnête, tranquille, rangée. C'est sûr que c'est pas une vie qui est, pour moi, plaisante à vivre, tu sais. Dans le sens qu'il se passe pas grand-chose. Des fois, je pense à mon ancienne vie, puis là, je me réveille, j'ai des pulsions. Mais je les contrôle.
Des pulsions, bien sûr, criminelles. Alors, c'est ça. Il essaie de se ranger. Il y a une petite vie calme maintenant. Il rencontre des journalistes dans des restaurants de brunch de banlieue.
En buvant deux pintes de bière le midi.
Avec deux. Non, il était même pas midi.
OK. Right. Je trouve que la scène, c'est juste surréel. Le brunch, la bière, reste tout de banlieue. T'as vraiment une vie de fou, Brigitte, au fond.
Dans le prochain épisode de Narcos PQ,
on va rencontrer l'ancien membre des Rock Machines, Stéphane Galarneau. Il va nous raconter ses faits d'armes. D'ailleurs, ses faits d'armes lui ont valu de passer la moitié de sa vie en prison.
Que j'avais quand même 500 000 US dans la sous-valise. Puis là, quand je suis arrivé, la lumière est tombée rouge, j'ai paniqué parce que là, j'ai dit, je peux pas perdre cet argent-là, mais on va me faire tuer. Et sûr, je me fais tuer, c'est fini, là. Puis là, quand ils sont arrivés, ils ont dit, toi, passeport. J'ai donné mon passeport. Ils m'ont dit, OK, va-t'en sur le côté. Là, je te dis, même mes sourcils, je pensais pas que ça shakeait, là, mais mes sourcils shakeaient. J'étais moite. Ils m'ont dit, OK, viens-t'en. Je suis arrivé, c'était de l'armée, là.
Mais il va aussi nous raconter ce qui lui donne maintenant l'envie, selon lui, de tout arrêter. Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québecor sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore, Philippe Séguin.
Réalisation et montage, Bastien Gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier.
La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio.